Ce n'était pas planifié, mais j'ai constaté quand Lala est en train de présenter le verset et souligner en tout temps, en 2017, quand David était en train de présenter le cantique, il soulignait en tout lieu, en 2017, et quand Ulysses présenter le cantique, nous venons de chanter, et souligner le mot toujours, en tout temps, en tout lieu, toujours. Dieu ne veut pas, Dieu ne demande pas beaucoup de nous. Il ne demande que tout. Et ça, c'est pas grand chose, n'est-ce pas? En tout lieu, en tout temps, toujours. Le premier cantique que Ulysses dirigeait tout à l'heure, j'ai compris dans la deuxième strophe tout au début, il disait je médite ta colère. Et je me suis dit c'est intéressant, je n'ai pas constaté, puis après je constatais que c'était je mérite ta colère. Par contre, je me suis dit il faut méditer la colère. On n'aime pas méditer la colère, on aime méditer l'amour. Mais pas de colère, pas d'amour. Pas d'amour, pas de colère par rapport à Dieu. Et quand nous comparons la colère de Dieu avec la colère impulsive et capricieuse de l'homme, on tord le sens. La capacité d'apprécier notre salut qui vient entièrement de Dieu, c'est lié à une capacité de comprendre la colère de quoi nous avons été délivrés. La colère méritée, c'était les paroles, mais médite la colère méditée pour améliorer notre capacité de proportionnellement glorifier Dieu. Parce qu'il n'est pas en colère contre nous. Mais ceux qui ne croient pas restent, Jean 3, 36, sous la colère de Dieu. Et ce matin, je voudrais que vous tourniez dans Luc chapitre 2. Vous qui étiez ici dimanche il y a 15 jours, vous allez rappeler que c'était Noël, le 25. Et le message, la prédication que j'ai eu en deux parties avec la possibilité, même une intention de souligner le 25, l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu incarné dans un corps bébé humain, et 15 jours plus tard, de souligner, qui vient même de cette nuit, les effets de ceux qui sont différents à cause de ce qui s'était passé. On s'éloigne depuis 2 semaines de la crèche, mais pas de la personne qui est née et posée dans la crèche, parce qu'il a maintenant 2 semaines de croissance. Il grandit pendant 33 ans, il va grandir, il va apprendre des choses, il va être formé, il va améliorer dans son corps inadéquat en soi, pas pécheur, mais faible, dans une chose qui doit être éduquée et dirigée, pas pour qu'il s'arrête d'être méchant comme est le cas avec nos enfants, n'est-ce pas? Mais que par l'expérience, il traverse toutes les choses que l'humanité traverse. Il apprend des choses, il est surpris par des choses, il est angoissé par des choses, il plaît dans beaucoup de choses comme nous. Il a traversé tout ça. Et ce que nous avons vu la dernière fois, nous avons vu 5 choses. Il est intéressant que l'ange qui venait, on ne sait pas si c'est Gabriel ou qui, parce qu'il n'est pas marqué, mais un ange, un seul, il est venu, il a parlé en 3 versets. Donc, le verset 10 est une préparation pour ce qu'il va dire en verset 11. Et verset 12 est une direction, quoi faire par rapport à ce qu'il est noté en verset 11, qui est 3 faits que nous avons. Julien, tu peux me porter un verre d'eau? Par rapport à ce que nous avions vu, la bonne nouvelle que nous avons eue, là, c'était qu'il y avait une date réelle dans l'histoire annoncée par l'ange. Aujourd'hui, cette nuit, il y avait une ville réelle annoncée par l'ange dans la ville de David, tout près de là où ils étaient, même pas un kilomètre. Merci beaucoup. Et puis, il y avait le Sauveur, le Messie, le Seigneur. J'étais frappé d'apprendre que la seule fois où nous voyons cette combinaison de 3 mots sans le mot Jésus est ici. C'est la seule fois. Son nom n'est pas connu encore. Joseph le sait, Marie le sait. Il n'est pas officiellement donné le nom jusqu'avant encore 8 jours où il sera consacré dans le temple. Mais le Sauveur, le Messie, le Seigneur, tout ça dans une seule personne, un bébé. Quelle merveilleuse et bonne nouvelle que nous avons là. Et puis, il y avait une réponse à ça, une réponse angélique qui était absolument stupéfiante. Aucune nouvelle jamais donnée a été arrivée à la hauteur de ce que annonçait pas le premier ange, mais la chorale des anges. Le mot, c'est armée. Armée veut dire un grand nombre d'anges militants, si vous voulez, une grande hôte ou une grande multitude des anges qui répondent et qui disent les deux phrases dont aucune chose ne peut les dépasser. Gloire, paix. Gloire à Dieu, paix aux hommes. Et quand vous considérez, quand vous réfléchissez, comme vous devriez réfléchir très souvent ou très pénétrant et longuement sur la colère de Dieu, Dieu est en train de traiter la colère méritée à son peuple, à tous ceux qui croient, avec l'amour, un amour qui est incompréhensible. Et puis, si vous pouvez penser avec moi, vous avez 2 listes. Une liste de toutes les choses qui sont créées et une liste de créateurs de toutes les choses qui sont créées. La liste à gauche sont les choses créées, sera infiniment longue, pas infiniment, mais très 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 longue, des centaines de milliers de kilomètres. Je ne dis pas infini parce que Dieu a créé au commencement, à la fin. Je ne crois pas que la Bible enseigne qu'il continue à créer. Ça peut être un débat, je ne sais pas. ce n'était pas notre intérêt, sauf pour dire que la liste à gauche serait très très longue, tout est créé. Pas simplement les choses matérielles, comme ça, mais les choses immatérielles, les choses visibles, les choses invisibles, les pensées. Nous avons un cerveau matériel, mais nous avons un esprit et les pensées qui sortent de ce cerveau qui sont immatérielles et qui sont considérées par certains évolutionnistes que d'être simplement des choses qui sortent de la nature matérielle. Et ce sont les suites. Donc nous sommes des créatures de différentes activités, de atomes et de neutrons et de tout ça, qui se font spontanément. Ce n'est pas du tout ça. Dieu a créé chaque pensée. Bien sûr, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu a créé tous pour que ça glorifie. Donc vous avez une longue liste des choses créées. Vous avez une liste très courte de choses qui créent, parce qu'il n'y a que un nom. Dieu est le seul créateur à qui toute la gloire doit être rendue. On en a chanté ce matin. Toute gloire est rendue à une seule source, colonne droite, rien colonne gauche. La gloire n'appartient pas à aucune personne, aucune chose. La gloire appartiennent à celui-là. Mais dans toute cette liste de choses que vous avez, qui durent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, il y a un ordre d'importance, on pourrait dire. Il y a certaines choses qui glorifient Dieu d'une manière plus stupéfiante que d'autres. Et si vous commencez par la chose la plus stupéfiante, jusqu'à la moindre de choses, ce qu'annoncent les anges était aux premières choses. Stupéfiante que, parce que dans la grâce de Dieu, manifestée par la paix sur les hommes, est un attribut, une chose de Dieu qui rayonne la splendeur et la gloire à Dieu plus que toute autre chose. Deux phrases. Donc, les anges, cette chorale d'anges, répondent à la révélation de ces cinq faits. Une date réelle, une place réelle, un sauveur, un messie, un seigneur, avec deux sujets. Sujet de gloire, sujet de paix. Gloire à Dieu, paix aux hommes. Le fait qu'il y a de la paix aux hommes est une chose qui fait glorifier Dieu. Nous ne lisons pas dans la Bible de beaucoup de choses qui rendent joie aux anges, au ciel. Mais je dis la plus grande révélation de la gloire de Jésus qui a jamais été manifestée ou déclarée, les anges ont dit, ils n'ont dit que ça. Ils n'ont dit que ça. Cette armée arrive pour répondre à l'annonce de l'ange singulier avec deux courtes phrases. Gloire à Dieu, paix aux hommes. C'est absolument incroyable et merveilleux. Et je suis absolument convaincu, et je crois que j'ai une base biblique de dire que les anges n'ont pas arrêté de chanter leur joie jusqu'à présent, de chanter leur stupéfaction depuis ce jour jusqu'à maintenant. Par exemple, qu'est-ce que Jésus avait dit? Je vous le dis, disait Jésus, Luc 15, 7, suite, ou la parabole des choses perdues et du fils perdu aussi. Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, les anges se réjouissent, stupéfiés encore, que cette personne qui était un grand pécheur, parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais je suis venu pour appeler les pécheurs. Et Jésus a dit, parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus, les anges n'ont jamais vu ça avant. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais Éphésiens 3, 10 parle du fait que les dominations célestes regardent à l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces personnes perdues mais sauvées, l'ensemble de tous ces pécheurs méchants mais repentants et donc sauvés. Les anges regardent ça. Chaque jour, à gauche et à droite, il y a des gens qui viennent au Seigneur, qui changent des ténèbres à la lumière. Oh, combien de passages soulignent ça et explosent ça dans pour notre considération, réflexion et compréhension et glorification. Donc, gloire à Dieu, parce que paix aux hommes a été mise en route, l'atterrissage à Noël, ce que nous avons vu le 25, et mise en route la paix de Dieu aux hommes. Le Fils de l'homme est venu à Noël, et il continue donc à sauver les gens qui sont perdus. Alors, qu'est-ce que cette paix? Alors, c'est toujours une question de relation. Une question de relation. Et la Bible en parle surtout de trois. Il y a la paix avec Dieu, il y a la paix avec soi-même ou avec son âme, il y a la paix avec les autres. Donc à travers toute la Bible, ce mot paix, j'ai lu et je n'ai pas compté, mais 479 fois au moins, le mot paix existe à travers la parole de Dieu. Et toujours une question des relations rompues ou des relations intimes ou différentes sortes de relations avec Dieu primordialement, avec des autres, et souvent c'était des relations entre des nations. Par exemple, Salomon a fait une alliance avec Hiram, le roi, dans le nord, pour qu'ils fassent la paix ensemble. Ils déclarent de vivre en paix l'un avec l'autre. Des nations font ça aujourd'hui. Différentes sortes de relations. Le mot paix était une salutation, shalom. Ça veut dire que la paix soit avec vous et avec votre enfant, avec votre famille, votre époux ou votre épouse. La paix est une chose que tout le monde cherche, mais qu'il trouve quand même assez rarement, n'est-ce pas? Donc, juste pendant quelques minutes, considérez, c'est pas pour une chose, une longue dissertation sur ce sujet. Je veux noter aussi qu'il y a une chose comme la fausse paix, parce que la Bible dit, par exemple, en Ézéchiel 13, 10 et plein d'autres passages, il y a plein de gens qui disent « Je suis votre ami, je suis ici et on fait la paix ensemble », mais ils se trompent, ils nous séduisent. Satan propose toujours la paix. Le monde propose toujours la paix. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule source de la paix. Et puis, la première chose, c'est la paix avec Dieu. Je crois qu'il y a plusieurs ici. Si je demanderais un verset, vous direz le verset clé qui dit « Étant donc justifié par la foi », ça c'est un résumé de tout ce qui s'était passé en chapitre 4. « Étant donc justifié par la foi », justifié par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez, allez en arrière deux semaines à Noël et n'oubliez pas que cette paix est entrée dans un petit enfant vulnérable à toutes les situations du monde qui a dû être survivre par le soin de ses parents. Cette étant donc justifié par la foi, il est vraiment possible que dans cette pièce, même avec ceux qui viennent souvent à l'église, parce que sinon, il n'est pas simplement possible, il est même probable, parce que la grande tendance, même en tant que chrétien, contre quoi il faut que nous luttions tous les jours, cette justification de soi. On va à l'enfer pour cette incrédulité. Je me justifie. Théologiquement, un chrétien assez informé sait que ce n'est pas possible. Mais pratiquement, nous vivons tous. Je doute qu'avant le soleil couche, même ce soir, nous allons nous trouver dans une situation où la justification de soi prenne le devant pour excuser plutôt que accuser. Enfin, humainement parlant, si on ne faisait pas ça, on se rendrait fou. La culpabilité et les sentiments de culpabilité qui sont tellement fortes, si on donne à l'idée entièrement biblique que je suis pécheur, que tout ce que je fais d'une chose égoïste, égocentrique, même les choses de charité en ma chair. Plein de gens qui font des choses de charité, plein de gens qui font des bonnes œuvres, plein de gens qui vont à l'église 52 fois par an, plein de gens se justifient. À la réponse à ça n'est pas « tant pis, je ne le fais plus, rien !» Non, parce que vous allez vous justifier même dans ce domaine. Mais ceux qui sont justifiés par la foi, comme Abraham, Abraham a cru Dieu. Et sa croyance, sa foi a été vue comme justice. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté une justice alienne, une justice étrangère, une justice qui n'était pas à l'intérieur de lui, une justice qui venait de notre pays. Un roi de ce pays est venu ici pour nous accorder un drapeau blanc pour que nous puissions dire « Je m'arrête la révolte ». Il dit « Arrêtez la révolte, je vous donne mon pardon, j'enlève tout votre péché de révolte et vous serez justifiés par ma justice, pas la vôtre. Vous n'êtes qu'un rebelle. Accepter cela, c'est d'accepter le don de Dieu, la paix de Dieu, la réconciliation. La réconciliation est une relation absolument essentielle. Mes amis, si jamais vous aurez une relation avec Dieu qui peut vous amener juste au ciel pendant toute l'éternité pour vivre avec Dieu. Être réconcilié. Quand deux personnes en animosité sont réconciliées en amitié, ah, qu'est-ce que ça fait pour le cœur? Cette action objective extérieur de la part de Dieu change ma réaction subjective à l'intérieur pour que je puisse adorer Dieu dans la reconnaissance que la colère méritée ne serait pas appliquée sur ce que je vois bien tous les jours en tant que chrétien. Je vois bien les choses ici méritent la condamnation. Mais je ne l'ai pas. Et je ne l'aurai pas. Parce que, étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu. Et ça, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, arrive à la fin de Romains, Paul va dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, dans la foi, en croyant pour que nous abondions en espérance. Alors, ne laissez pas ça juste partir comme ça. Abondions en espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous abondions dans la réflexion précise sur une espérance absolument sûre et certaine. Nous pouvons prendre un cahier et de écrire les espérances sûres, ce que nous devrions faire dans la lecture de la parole de Dieu. Vendredi soir avec les jeunes, nous avons essayé de souligner le fait qu'une lecture qui entre ici, qui sorte par je ne sais pas où, mais qui n'entre pas ici, est entièrement inefficace. Ça ne fait absolument rien. Il faut que ça soit digéré, et la digestion doit être une chose provoquée par un désir et une détermination. Où je ressente le besoin, où je ressente une intensité de passion pour Dieu, où je ne le ressente rien, il y a certaines choses, je pratique parce qu'ils me font du bien quand même. Quand vous mangez ayant une faim très très forte, ou quand vous n'avez pas envie de manger, mais vous le faites quand même parce que vous savez que les effets de manger vont avoir leurs fruits plus loin dans la vie. Donc que la grâce de Dieu, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Savez-vous que Dieu et paix sont inséparables? Dieu et paix. Tout le monde cherche la paix. Il existe sur Internet beaucoup d'exercices, beaucoup de séances, beaucoup de yoga, beaucoup de plein de différentes choses parce que vous avez besoin d'une paix. Et une simple discipline de soi peut, pendant un certain temps, promouvoir une certaine absence de conflit entre la famille ou entre un couple ou entre des gens au travail. On fait des séminaires pour que les employés qui s'entendent entre eux s'entendent mieux, en paix, plein de choses au mieux. Ces choses sont très éphémères et très superficielles et ils ne vont pas durer. Parce que la Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants, point de paix pour l'Éternel, dit l'Éternel. J'allais mettre une autre traduction qui disait, et ça c'est la parole de vie, et il n'y a pas de paix pour ceux qui sont sans foi ni loi. Et ça c'est le mot méchant. Tout le monde respire bien avec le mot méchant, c'est pas moi méchant, c'est les autres. Je connais des gens méchants, c'est pas moi. Oui, je fais des bêtises, mais je suis pas méchant. Tandis que le vrai sang, c'est celui qui rejette la loi de Dieu pour sa propre loi. Il sait, pense-t-il, ce qu'il faut qu'il soit content, heureux. Tu ne connais pas mon cœur, tu ne connais pas mes rêves. je vais vivre mes rêves. Et nous entendons tout cela. Vivez vos rêves. Prenez ceci, cela, et vous pouvez réaliser vos rêves. Alors, la vie existe pour ça. Pour réaliser vos rêves. Ici, sur cette planète, dans les 80 années qui vous risquez d'avoir, parce qu'après ça, il n'y a rien d'autre. Réalisez vos rêves. C'est la meilleure paix que le monde peut offrir. Et ce n'est pas une paix qui, même si pendant un certain temps, ça semble se réaliser, il n'est pas réel. Il n'y a point de paix pour ceux qui rejettent la loi de Dieu. La paix de Dieu et la foi en Dieu sont inséparablement liées. Et la paix sans Dieu annule toute autre paix, malgré une semblance momentanément ou pendant quelques années de paix. La paix n'est pas là. Il commence avec Dieu. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous rappeler en 2017, d'abord que vous vous rassurez que cette relation entre toi et le Seigneur soit primordiale, soit sans obstacle, soit la raison d'être de votre vie, de vivre en relation avec Dieu dans la paix qu'il donne, parce que la paix de Dieu est un don de Dieu. Mais aussi, dans la Bible, il parle très souvent de la paix dans son âme. Et puis, oh, combien de passages qu'on aurait pu utiliser, mais en Colossiens chapitre 3 et verset 15, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Ça, c'est un désir, c'est une prière que la paix de Christ. Et puis, une deuxième idée, à laquelle vous avez été appelé pourquoi ? Appelé pour former un seul corps. Paul est en train d'écrire une lettre à l'église locale de Colosse. Il a demandé que lisez ça plusieurs fois, puis envoyez ça à d'autres églises, à Laodicée et d'autres. Mais lisez ça, comprenez ça, encaissez ça, changez, pour que la paix de Dieu dans votre milieu, l'église locale, règne. Vous avez été appelés à ça. Ce n'est pas juste un extra. Vous avez été appelés pour que la paix de Christ règne dans votre milieu, dans le corps. Appelés pour former un seul corps, que ça règne dans vos cœurs. Et la reconnaissance sera une suite plus ou moins naturel, sauf pour le fait que c'est un impératif encore. Parce qu'il est tellement facile de ne pas être reconnaissant. Les choses qui passent comme quelque chose dû. Oui, Dieu devrait faire ça pour moi. Je ne m'arrête pas pour le reconnaître. C'est son travail, c'est son boulot. Il est fait pour ça. Et la preuve que ça, c'est notre mentalité, c'est que quand ça ne marche pas, comme nous donnons un niveau minimum pour Dieu. Au-dessus de ça, on accepte Dieu. En dessous de ça, Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pas juste dans des crises majeures, mais dans des minuscules choses quotidiennes. On s'irrite, on s'énerve. Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien que Dieu aurait pu descendre et enlever cet obstacle Mais il n'a pas fait. C'est sa faute. Vous ne direz jamais ça. Mais vous croyez ça. Et vous habitez comme ça. Et moi aussi, hélas. Donc la nécessité pour un impératif aussi, le premier, était aussi que la paix de Christ, à laquelle vous avez appelé pour former une corps, règne. Je ne fasse pas régner, mais je prie pour que, et je soumette à Dieu pour que la paix règne. Et puis, le verset précieux, peut-être chaque personne ici, ne vous inquiétez de rien en 2017. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en tout lieu, tout à l'heure, en tout temps, toujours, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ? Par des prières, encore comment ? Par des supplications, encore comment ? Avec des actions de grâce, trois ingrédients d'une prière qui honore Dieu. C'était une demande de Dieu qui contient une réalisation que, à moins que Dieu réponde, il n'y a pas une vraie réponse. Ça, c'est l'idée de supplication. À la fin de ma ressource, je supplie Dieu, calmement peut-être, ou en très tension peut-être, mais supplier, mais toujours avec action de grâce. Tout ça, c'est versé dans le bain de reconnaissance et action de grâce. Poser une prière, un cri de demande sans aucune reconnaissance est une superstition, ce n'est pas une prière. Dirigez vers Dieu plein d'amour qui a promis que vous n'avez absolument rien à vous inquiéter. Oh Robert, écoutez ton serment, parce que vous n'avez absolument rien à vous inquiéter. Mais que en toute chose, faites connaître dans une ambiance, dans un contexte plutôt, de reconnaissance qui absorbe les choses qui m'arrivent et des surprises et qui remercie Dieu pour sa réponse. Et voilà, la paix de Dieu qui surpasse, je crois que j'ai souligné le mot surpasser. Pourquoi surpasse toute intelligence? Parce que quand des choses ne marchent pas comme on pense qu'ils devraient, mon intelligence peut donner mille raisons pourquoi Dieu aurait dû faire ça, aurait dû répondre en ce moment, aurait dû pas me laisser attendre dans suspense autant qu'il m'a fait. J'ai mille raisons que je rationalise que ça aurait dû être autrement. N'est-ce pas? La paix de Dieu surpasse tout ça. La paix de Dieu circonvente tout ça. Et ça, c'est ce qu'il est en train. La paix de Dieu qui surpasse tous vos raisonnements, toute votre capacité de justifier cette manière d'agir ou l'autre. Non, la paix de Dieu surpasse ça. C'est ça qui gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas ça qui enlève les obstacles matériels. Ce n'est pas ça qui enlève ce prof qui vous a visé d'être méchant à vous, ou un employeur, ou une autre personne. Chacun de nous, je crois, Dieu permet au moins une ou deux personnes d'être dans notre vie comme une épine de nos côtés pour démontrer combien nous vivons très facilement dans la chair. Dieu enlève cette personne ou fait autre. Je ne mérite pas ça. Dieu sait exactement ce que tu en as besoin. Tu va au docteur, il va, tu vas pas aimer ça. Il nous a donné un anis cette semaine, un mélange. Vous mélangez ça dans l'eau. Elle aurait voulu un comprimé. Mais non, il faut qu'elle mange ça et le goût est amer, elle n'aime pas. Mais elle sait que c'est pour son bien. Si je le présente tous les matins et dis avec une fleur, dis chérie, je vous donne ça. Non, tu sais, je n'aime pas. Oui, oui, mais quand même, je le présente parce que moi je l'aime et je crois que tu devrais l'aimer. Non, 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 ça ne marche pas dans des amitiés. Mais avec le docteur, oui, ça marche. Parce qu'on a confiance dans le docteur. On a confiance qu'il ne exigera quoi que ce soit, qu'il ne pensait pas était pour votre bien, pour votre santé. Oui, pendant quelques jours, vous n'allez pas bien. Mais après, vous allez voir, ça prend son effet. Et donc, cette paix est une paix que nous devrions rechercher en 2017. Parce que c'est une paix qui dépasse toute notre excuse, tout notre justificatif, toute notre intelligence. Et c'est une paix qui garderait que vous ayez les meilleures pensées à travers ce moment très, très dur. Ces moments impossibles, que Dieu garde les paix. Juste cette semaine, j'ai entendu des témoignages, une requête de prière d'un pasteur qui disait: prie pour moi, il y a certaines choses devant moi que je prie que Dieu enlève, mais Dieu refuse de l'enlever. Prie donc pour que mon cœur reste calme. Vous avez jamais été là? J'espère. J'espère que dans une telle situation, le plus profond désir de votre cœur, c'est que vous pouvez garder vos pensées pures, fixées sur celui qui a provoqué, qui a donné le médicament nécessaire pour que tu changes en 2017. Qui c'est qui ne veut pas changer? Il n'y a aucun chrétien qui est vraiment content de rester là où il se trouve. Non, non, il veut aller plus loin avec le Seigneur. Et puis, paix avec des autres. Alors ça, c'est un peu plus difficile. C'est pour cela probablement que l'apôtre Paul a dit, s'il est possible, je sais que parfois il n'est pas possible. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le temps de Noël ou le temps de vacances, souvent, exige que nous soyons avec des personnes où nous ne sommes pas mal à l'aise, où nous sommes mal à l'aise, où nous ne sommes pas à l'aise. Souvent, ça c'est le cas, surtout dans des familles chrétiennes, parce qu'il n'y a presque pas personne qui n'ont pas des familles qui ne sont pas chrétiennes et qui ne sont pas de notre avis, et qui sont pas même apathiques, qui sont même hostiles de notre foi et de notre manière de vivre et de notre manière de interpréter le monde et de notre vision du monde. Si c'est possible, ne fuyez pas ces moments. C'est la volonté de Dieu. Parce que dans nos cœurs, nous pouvons être libérés d'avoir une attitude de pardon. Et peut-être le verset que nous connaissons plus, mais on le répète peu souvent, parce que le verset qu'on connaît le mieux, on répète le moins souvent, c'est Éphésiens chapitre 31. Chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, attention, il parle aux chrétiens. Attention, il parle à tout le monde dans cette salle, à Pessac-Compostelle. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Il semble parler comme si ça existe chez les chrétiens. C'est pas possible. Si c'est possible, si c'est probable, si c'est... On est infecté. Notre assemblée est infectée par vous. Par moi. Et pourtant, on peut vivre dans une paix sans toutes ces choses. Donc il est très explicite. Il dit, fais pour que une activité se mette en route, pour que la conséquence de cela sera que toute amertume, toute animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté disparaissent de plus en plus du milieu de vous. 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, et puis vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que nous vivons dans un pardon total par rapport à qui que ce soit? Souvent, on entend, oh oui, je l'ai pardonné, mais bon, je ne vais pas parler avec lui. Oui, je l'ai pardonné, ça comme une piété fausse. Je l'ai pardonné, mais quand même, je continue à garder cette rancune. Ah non, je parle rancune. On peut savoir par le ton de leur voix. Ils sont plus infectés de rancune qu'ils savent. Il y a des personnes dans notre vie, chacun, où on préfère de ne pas être à côté. Oui, on ne peut pas être à l'aise avec tout le monde. Mais en tout cas, la Bible dit, surtout entre chrétiens, mais avec tout le monde, que nous devrions être réciproquement ceux qui se pardonnent entre eux. Quelqu'un m'a parlé, même dans cette salle, m'a parlé d'un pasteur qui disait à une personne dans l'église, je refuse de te pardonner, sur son lit de mort. Ce suppliant demandait son pardon. Et il a refusé le pardon. Avant, quelques heures avant de rencontrer celui qui lui a pardonné. Vous savez, je crois que la clé qui permet que je pardonne la personne qui m'a fait plus du mal, c'est que je suis émerveillé par le pardon qui m'a été accordé. Non, je n'ai pas dit que je connais. Il faut que je sois émerveillé. Plus que je suis émerveillé par un pardon que je ne mérite pas, plus que je suis capable de pardonner la personne contre qui je porte une rancune à cause d'une offense qui me l'a fait. J'ai une voisine qui m'a dit, juste le mois dernier, par rapport à mon beau-frère, c'est pas la peine que tu cherches à nous réconcilier, c'est trop tard. Ils ont tous les deux, dans leurs 80, ils n'ont pas parlé depuis 25 ans. C'est pas la peine. On n'a pas envie de se réconcilier. Bon, on n'est pas chrétienne, ça se comprend, mais il y a des chrétiens qui vivent comme ça aussi. Il y a des chrétiens qui portent des offenses pendant des années et des années. Je ne connais pas une clé à part ça. De être émerveillé par le pardon qui m'a été accordé. Le pardon que j'aurais su pour que je puisse accorder un pardon moins nécessaire que le pardon qui a été absolument nécessaire si jamais je vive avec Dieu. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix pour que le pardon de Robert soit effectué quand il croit et me permettrait de pardonner des autres personnes qui m'ont fait du mal? La seule chose n'est pas simplement de connaître la bonne théologie et les versets comme ça, mais d'être émerveillé et de provoquer les choses qui mettra plus. C'est pour cela que j'ai été frappé quand j'ai entendu méditer la colère de Dieu. Oui, ce n'était pas ça, mais méditer la colère de Dieu, que je ne vais pas expérimenter, mais que je le mérite. Et je peux donc pardonner la personne. Donc son offense envers moi était beaucoup moins que ma rébellion en pleine connaissance, Romains chapitre 1, contre Dieu qui faisait tout pour que je laisse tomber mes bras de rébellion et que je me soumette à lui. Aucun demi-sept. Nous vivons la paix avec Dieu, la paix avec, dans nos âmes et la paix avec des autres. Et puis, quelques versets bibliques. Et Dieu est appelé le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Que le Dieu de paix soit avec vous. Amen. Romains 15, 33. Ou un peu plus tard, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ah, ça c'est futur. Jésus est atterri sur la planète. Il a marché sur cette planète. Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu donne son jugement contre le serpent. Tu vas être écrasé, la tête. Il n'a pas été encore complètement écrasé. Il a été abattu à la croix. Mais le cœur continue à faire du mal. Et il sait que son temps est limité. Mais Dieu va quand même. C'est toujours l'avenir. Oh Dieu, viens vite, dit les gens en Apocalypse. Pourquoi? Parce que la persécution, la souffrance qui connaissent, liée à leur propre inadéquation, propre péché, être libéré pour une fois pour tout de toute insinuation de égocentrisme et péché dans ma vie. Ceux qui méditent la colère de Dieu et ceux qui méditent l'amour de Dieu ont une intensité de croissance de ce désir. Oh Dieu, pour pouvoir dire avec Richard Baxter, le puritain qui disait « Le dernier jour de ma vie, c'est le meilleur jour de ma vie, parce que demain, je serai libéré. » Ça devrait être notre désir en 2016. « Ce que vous avez appris, dit l'apôtre en Philippiens, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Et la conséquence, le Dieu de paix sera avec vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, corps, voyez ça, tout entier, être, esprit, l'âme, corps, soit conservé irrépréhensible hors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la paix. Il y en a encore un, en Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, qui est le pasteur des brebis. Le reste nous aide à savoir, par le sang d'une alliance, ce grand pasteur, par le sang d'une alliance, virgule, qui c'est? Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui c'est le Dieu de paix alors? C'est son Père. Le Père et le Fils. Que le Dieu de paix, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a ramené d'entre les morts Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, qui fasse quoi? Qui vous rendra capable de toute bonne œuvre en 2017 pour l'accomplissement de sa volonté, et qui fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire des siècles et des siècles. Amen. Encore deux passages. Pour votre édification, Jésus a dit, je vous laisse ma ou la paix. Oui, c'est ma paix, ce que je vous laisse. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde ne s'arrête pas de parler de la paix et de présenter différentes solutions pour la paix. Non, je ne donne pas comme ça. Donc, que votre cœur ne se trouble point en 2017 et ne s'alarme point en 2017. Et puis, dernier passage. Car il, Jésus-Christ, est notre paix. Lui qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans des prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Ceux qui étaient les Juifs qui vivaient selon la loi de Moïse, ceux qui étaient les païens qui ne connaissaient pas du tout, mais qui par la foi, tous les deux, sur la même porte, se sont abaissés pour entrer dans la paix de Dieu. Que en lui-même, qu'il établisse la paix. Et ça, c'est ma prière pour nous en 2017, que nous connaissions la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est une lutte, c'est un combat féroce. Mais le Dieu qui vous a sauvé vous a aussi équipé de ne pas jeter l'éponge. Tous vont terminer par ou jeter l'éponge dans des pressions trop fortes ou aller persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a que deux catégories de gens religieux, de gens qui cherchent plaire à Dieu. Ceux qui se justifient et mettent leur confiance dans leurs propres efforts. Et ceux qui acceptent par la foi la justice de Dieu, ayant été réconciliés et en paix avec Dieu. Père Céleste, nous te rendons grâce pour le message de ces anges cette nuit qui ont laissé sortir de leur bouche ce qui avait été prévu par Dieu, les deux phrases les plus importantes pour toute l'humanité. Nous existons pour la gloire de Dieu. Et la chose qui glorifie Dieu plus que toute autre chose, c'est la paix qu'il a amenée entre lui et ceux qui croient, afin que notre foi glorifie Dieu. Ô Seigneur, je prie ça pour moi et pour toutes les personnes ici pendant cette année. Ce n'est pas facile. Rien qui est bon n'est facile. Mais tu es avec nous. Tu n'abandonneras jamais ceux qui placent leur confiance en toi. Et est-ce que nous, Seigneur, puissions par la grâce de Dieu mettez tous entre les mains de Dieu. Roulez notre fardeau sur Jésus, jour par jour par jour. Et alimentez nos cœurs régulièrement dans la nourriture de richesse de la parole de Dieu. Le seul moyen de communication que Dieu a voulu entre lui et nous, la Bible. Que cette année soit beaucoup de progrès reconnus dans chaque personne ici. Sauve la personne qui, jusqu'à présent, est toujours en train de tourner à gauche et à droite, mais qui n'est jamais soumise à Dieu, parce qu'il a avalé le mensonge qu'une vie très ennuyeuse, très désagréable, très difficile, impossible à vivre, lui attend s'il se met à Christ. Ô Seigneur, permets qu'il connaisse la liberté qui vienne avec ceux qui se présentent comme esclaves à la justice de Dieu, en se libérant de sa propre justice, qui va lui faire tourner en ronde ici et détruire éternellement plus loin. Merci pour ton salut. Priez peut-être dans votre cœur, Seigneur, je suis un rebelle. Mes péchés sont bien évidents. Le plus possible, je m'arrête de me justifier. Je me prosterne devant ta justice offerte. Je prends les robes de ta justice. Je jette les robes salées, orgueilleux, plein d'arrogance de mon injustice à tes pieds pour ne jamais le reporter. Sauve-moi et miséricorde sur moi, pécheur. Et si cette prière sorte de votre cœur sincèrement, il ne sera pas sans écoute. Dieu l'a enregistré. Il sera là pour vous donner tout ce qui est nécessaire de changer, de se repentir et de venir au Jésus pour le salut. Merci Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils, né à Bethléem, mort en Jérusalem, 10 kilomètres plus loin, pour nos péchés, ressuscité et monté au ciel, pour être notre intercesseur.